Et vous écoutez France Culture. Une telle rage me prit que j'eus peur d'ouvrir la bouche, craignant de pousser un hurlement sans fin. James Carlos Blake, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Près d'un siècle de criminalité américaine, ce soir dans Mauvais Genre, qui évoquera la trépidante et sanglante saga de John Dillinger, héros de Hans-O-Mari de notre invité James Carlos Blake, Los Angeles des années 40, mise en scène par James Ellroy dans La Tempête qui vient, paru chez Rivage, et le narco-cataclysme contemporain, dramatisé par Don Winslow dans La Frontière, une publication Harper et Collins. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre Polar, où je serai bien évidemment entourée d'Élise Lépine. Comment va-t-elle?
Bonsoir, tout va très
bien. Bonsoir, quoi de neuf, Élise Lépine?
Eh bien,
dites-nous tout.
Ce week-end, je suis à la fête du Livre du Var à Toulon, et pour ceux que ça intéresse, entre autres rencontres, j'anime demain dimanche à 11h30 une rencontre avec Clément Millian, l'auteur du triomphant aux éditions aux Arènes chez Equinox, et Yannick Granek, voilà, tous les deux autour des temps anciens. Donc on va voir la noirceur conjuguée au passé.
Voilà, c'est bien noté chez tous les grands fans d'Élise Lépine. Hubert Prolongeau, d'où revenez-vous, Hubert?
Eh bien, hélas, je reviens de mon sud-ouest natal, ce qui n'est pas très très loin. Et je découvre la joie du temps parisien, qui est peu clément.
Oui, effectivement, ça, c'est un peu, c'est assez Ellroyen.
Tout à fait.
Ellroy a amené la tempête avec lui, la tempête qui vient, la tempête est là, en tout cas, à Paris. Mais avant cela, avant d'ouvrir ces trois bibles noires du polar contemporain, on va ouvrir notre encyclopédie pratique des mauvais genres avec vous, Céline, et ce soir.
Eh bien, ce soir, nous sommes sous l'eau aussi, et nous accueillons Ludo le Triton. Alors, l'histoire, en fait, a commencé au bord d'une fosse aquatique. Un homme arrive, la démarche élégante et sportive, une queue de sirène repliée dans son sac. Après avoir déployé et enfilé sa nageoire d'1m70 à peu près, Ludovic plonge et le voilà devenu homme-poisson, alias Ludo le Triton. La suite de l'histoire se poursuit sous l'eau, en apnée, une chorégraphie aquatique sublimée par les reflets pourprés moirés d'une longue queue de sirène apparaissant et disparaissant au gré des vagues. Le Triton nage, ondoie, danse, fait des vrilles et des bises aux bulles, heureux comme un poisson dans l'eau.
C'est vrai que la sirène, j'aime ça depuis gamin en fait, depuis La Petite Sirène de Disney et Splatch, le film qui est sorti dans les années 80. Ce sont deux gros films qui sont restés ancrés dans ma mémoire, et en grandissant, en plus c'est vrai que j'adore l'univers du merveilleux, du fantastique, je suis un petit Peter Pan, du coup du fil en aiguille c'est comme ça que... La passion de me transformer en homme-poisson est venue.
Comment est-ce qu'on devient un homme-poisson ?
Je suis devenu un homme-poisson, homme triton, il y a 5 ans maintenant, à peu près. J'ai enfilé une nageoire de sirène et je me suis baladé à la plage. Et après, la passion a continué, a évolué. Et puis maintenant, j'en suis là où j'en suis au jour d'aujourd'hui. J'aime beaucoup l'univers du fantastique, de la féerie. Ces femmes, moitié poisson, qui sont mythiques, qu'on ne peut pas attraper, c'est ces femmes qui sont dans le mystérieux. Et c'est comme ça que j'ai décidé aussi d'incarner une de ces créatures.
Alors, pour l'incarner, il faut donc avoir une queue de sirène.
Oui, oui, exactement. C'est vrai que sur le marché, il existe différents types de nageoires. Donc, on a des nageoires en tissu, des nageoires en néoprène, des nageoires en sequins, cousues un par un. Pour les plus professionnels, ou ceux qui en tout cas sont ardus dans la discipline, des nageoires en silicone. Alors j'ai deux nageoires en silicone, la première elle a 15 kg et la deuxième est aussi à 15 kg.
Comment vous le ressentez? Comment vous le vivez?
Je me pose pas de questions, je vis mon truc, enfin c'est tout. Effectivement, la sirène est peut-être plus associée au corps féminin. Mais il faut savoir que dans l'histoire mythologique grecque, entre autres, et nordique, il existe des hommes-poissons, des tritons, des ondins aussi, toujours dans le côté folklore aquatique, et bien d'autres créatures, hommes, femmes, animaux aussi. Encore une fois, on en revient au côté fantastique et merveilleux de la chose. Ce sont des choses qui n'existent pas dans la vie réelle. Donc c'est vrai que incarner une créature fantastique, une créature fantasme, C'est moi, ça me plaît bien.
Pour retrouver l'univers de Ludo le Triton, vous pouvez vous rendre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, où il officie sous le nom de Merman Ludo. L'occasion de retrouver celui qui, enfant, jouant à la piscine avec ses copains, préférait être dans le clan des sirènes plutôt que dans celui des requins. Par ailleurs, Ludo le Triton est très actif dans la communauté des créatures aquatiques, puisqu'il a créé l'année dernière le premier concours au monde d'hommes-poissons, le concours de Mister Triton France. Au programme des épreuves, apnée dynamique, shooting de photos sous l'eau, défilé en slip de bain et questionnaire de culture triton, élégance et aisance aquatique, les deux maîtres mots de l'art d'être un triton. Et comme Laurent Polleret, maître des ondes radiophoniques et aquatiques, et lui aussi comme un poisson dans l'eau, il est allé filmer Ludo le Triton dans les profondeurs d'une fosse aquatique, une plongée en images et en ondulations que vous pouvez voir depuis hier sur la page Facebook de Mauvais Genre.
On s'y presse. Merci Céline pour cette entrée. Ludo le Triton de notre encyclopédie pratique des mauvais gens. Alors si les fans d'Élise Lépine peuvent la retrouver à Toulon, ceux de Céline Duchesnay peuvent la retrouver où et quand ?
Vendredi prochain, je vais faire une signature donc du livre Sorcière à l'Écume des Pages à Paris, qui se situe boulevard Saint-Germain. Donc il y aura une discussion avec Jacques Hébert, qui est le libraire de l'Écume des Pages, suivi d'un pot évidemment de l'amitié des sorcières.
Un pot sulfureux, et on rappelle
à 19h,
que
c'est
Céline...
à 19h.
Et l'auteur d'un livre désormais incontournable sur les sorcières aux éditions Michel Lafon.
Pendant France Culture
que,
aussi.
Oui, un événement France Culture, bien évidemment. Pendant que vous parliez, Hubert Prolongeau nous avouait qu'il avait déjà vu un triton.
Il aimerait bien, oui, en fait, parce que le triton, c'est bon, dit-on. Donc, je souhaiterais en rencontrer, mais mes goûts spontanés me portent plus vers les sirènes, je dois l'avouer, lesquelles sont un peu plus nombreuses.
Tout à fait.
Un peu dites-moi, plus que les tétons, c'est vrai.
Céline, après l'homme-cheval.
Oui, l'homme-femme-cheval.
L'homme-femme-cheval, pardon. L'imitateur de fauves, d'animaux des bois. Voilà, l'homme-triton, il y a tout un bestiaire du chénique qui se met en place.
Vous savez que tout ce qui est hybride, moi, me plaît beaucoup. Donc, quand les chimères se rencontrent dans la rue ou dans des fosses aquatiques ou dans d'autres lieux, c'est vrai que je suis tout de suite extrêmement heureuse, comme un poisson dans l'eau, moi aussi. J'aime bien quand il y a des mélanges.
Merci Céline. Alors, comme je le disais en ouverture de cette émission, Mauvais Genre Polar ce soir avec d'abord un invité de marque. C'est sans doute la première fois qu'il vient en France, à tout le moins qu'il y rencontre des journalistes. Et on remercie infiniment les éditions Gallmeister, François Guérif et Olivia Castillon d'avoir organisé cette rencontre, puisque nous avons pu, des années, des années et des années après avoir découvert son génie de romancier, rencontrer et échanger avec James Carlos Blake. J'étais avec Élise Lépine et avec Hubert Prolongeau, donc rencontre en ouverture de Mauvais Genre pendant une petite demi-heure avec James Carlos Blake, et c'est bien évidemment Hubert qui nous le présente.
James Carlos Blake est né au Mexique, l'espagnol est sa langue maternelle, il a parlé anglais à partir de l'âge de 7 ans quand il a immigré avec ses parents au Texas, puis en Floride. Comme tout écrivain américain, sa légende est parsemée de petits travaux insolites. Il a été entre autres éleveur de serpents, et puis s'est mis à écrire des nouvelles, puis des romans qui essaient de raconter, je crois, l'Amérique à travers la criminalité. Est-ce que c'est ça votre projet ? Est-ce que c'est de faire une espèce de contre-histoire de l'Amérique par sa face sombre ?
Je ne sais pas si on peut vraiment parler de contre-histoire. En réalité, c'est une histoire juste, fidèle. Les États-Unis, vous le savez, ont une histoire particulièrement violente, à la star du reste du monde.
Dès
ma jeunesse, j'ai été lecteur avide et j'ai compris que c'est la violence qui règne sur tout. Bon, ça peut paraître très cynique de ma part, mais en réalité, si on regarde l'histoire par un certain prisme, on se rend compte que c'est le pouvoir qui détermine la façon dont l'avenir va se développer. Alors, c'est vrai pour les gangs dans des villes, qu'elles soient petites ou grandes, au niveau d'un État, d'un comté ou d'un pays ou d'un continent. Non, je crois que ce n'est pas une contre-histoire, c'est une histoire réelle.
Il y a une autre manière assez intéressante que vous avez d'aborder cette histoire, c'est de la faire raconter par des seconds couteaux. Dans Les Amis de Pancho Villa, c'est un adjoint de Pancho Villa qui raconte l'épopée révolutionnaire. Et dans En Somari, c'est Harry Pierpont qui est un camarade de John Dillinger qui raconte l'histoire de Dillinger. Expliquez-nous pourquoi ce point de vue toujours un peu décalé et en quoi finalement les seconds rôles sont peut-être les mieux placés pour raconter ce qui se passe.
Yes, that's just one technique that I like to use in narrating a story. Because, as we all know, first person narrators, when someone is telling his own story,
lorsque l'on raconte sa propre histoire à la première personne, eh bien, on peut se poser quelques questions. On peut mettre en doute la véracité des dires. Mais le personnage secondaire, qui connaît très bien le caractère, le personnage principal, a plus de chances de raconter les choses de manière véritable, véridique. Ainsi, ça a très bien fonctionné pour moi. Donc j'ai écrit sur John Wesley Hardin, c'est un roman choral, mon premier roman, et il y avait différents personnages qui racontaient son histoire, et ça vous donne une diversité des points de vue qui portent sur le personnage principal. Ensuite, il y a eu Rodolfo Fierro, qui était l'exécuteur en chef, meilleur ami de Pancho Villa, qui raconte l'histoire. S'agissant de Handsome Harry, là c'est Harry Pierpont qui raconte l'histoire de John Dillinger. Si je laissais la parole à John Dillinger, on pourrait mettre en doute ce qu'il dit, parce que lui, il aurait tendance à raconter l'histoire à sa façon. Alors que là, c'est Harry Pierpont. Alors, Harry Pierpont parlant de John Dillinger, on peut y croire. Harry Pierpont parlant de Harry Pierpont, on pourrait avoir des doutes. Voilà. C'est pour ça que j'adopte cette technique.
Vous faites dire à Handsome Harry donc que dans en Amérique, dans l'Amérique qui est la sienne, les hors la loi et les criminels sont deux choses différentes et qu'en fait les criminels ne sont pas toujours hors la loi, que les criminels sont les banquiers, les patrons d'usines, etc. Vous écrivez beaucoup de romans historiques, ce qu'on appelle les romans historiques, qui se situent donc dans le passé. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez dire? Est-ce que c'est une façon de parler de l'Amérique contemporaine?
Yes, it does. I always like that.
Oui, il y a une touche contemporaine.
There's a difference between outlaws and criminals.
C'est vrai qu'il y a une différence entre les hors-la-loi et les criminels. There's a very good scene that I like when they're in the car. Très chouette que j'aime. C'est dans la voiture. Harry parle à John et dit on est peut-être des hors-la-loi. Mais c'est à ce moment-là la chose la plus honorable que l'on puisse faire, étant donné que les banquiers, les chefs d'entreprise et les hommes politiques sont les vrais criminels. Il dit à John, donc le roi, c'est la profession la plus honorable. Et les filles ont rigolé parce qu'elles savaient que ce n'était pas une blague. Oui, c'est bien de dire ça.
Of what makes these guys what they are here.
Et mais ça explique bien qui sont ces personnages. C'est pas des voleurs pour le plaisir de voler. Alors qu'ils aiment bien l'adrénaline quand ils ils agissent de façon délictueuse. Mais c'est vrai qu'à l'époque, les banquiers étaient les véritables criminels. Donc dans les années 30, c'était tout à fait le cas.
Il y a une phrase, James Carlos Blake, qui est à la fin de ce qu'on appelle la note de l'auteur, c'est-à-dire la dernière phrase du livre, bien après le récit, et qui me semble extrêmement importante. Vous dites « Cet ouvrage est un roman ». Et en tant que tel, se préoccupe moins des faits que de la vérité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer justement ce rapport entre les faits et la vérité, surtout à propos d'un roman, enfin d'un ouvrage comme Handsome Harry, qui est entièrement basé sur des faits authentiques, ou quasi authentiques, avec des personnages historiques, donc les faits et la vérité?
That's a good thing to focus on.
Oui, merci de poser cette question. Très bien, tout à fait pertinent.
Lorsque
j'écris un roman historique, je ne sais pas comment s'y prennent les autres écrivains, mais ce qui est important pour moi, c'est ceci. Je me plonge dans le passé historique des personnages, donc je connais le contexte historique, et si ce contexte m'intéresse, eh bien là, je me lance à décrire le personnage. Les faits, on peut les utiliser de bien des façons. Et évidemment, on peut avoir des soupçons vis-à-vis des faits. Alors, l'époque contemporaine est un exemple formidable de ça. Mais la vérité, c'est quelque chose de différent. On peut mentir en parlant des faits. Et quand vous allez dans une cour de justice pendant 2 heures, on va comprendre comment les faits peuvent être utilisés, tordus, distordus en mensonge. La vérité, c'est complètement différent. Les gens qui participent à un incident, qui ont vécu une situation, connaissent la vérité. Alors que les faits peuvent aller à l'encontre de la vérité telle qu'elle a été vécue. C'est très intéressant ce que vous dites. Et l'un de mes aspects préférés dans l'écriture d'un roman historique consiste à faire dire aux personnages ce qu'ils ont vécu comme vérité. Et Harry dit, vous savez, la façon dont les gens utilisent les faits aujourd'hui, eh bien, c'est criminel. Nous sommes des hors-la-loi et c'est la chose la plus honorable que nous puissions faire. Voilà. Et ce n'est pas une blague, c'est la vérité.
Alors, ce qui est marquant dans Handsome Harry, c'est qu'on a en même temps, instantanément, la double lecture des faits, et chacun a sa vérité. La bande de Dillinger commet les cambriolages, et donc à sa lecture des faits, c'est-à-dire je l'ai tué parce qu'il a tenté de résister, mais il n'était pas obligé. Enfin, il y a une lecture au premier degré. Et puis, il y a la lecture mythique, populaire, de la presse. Donc en permanence, on a la lecture de la presse qui mythifie, qui fait de Dillinger une sorte de monstre et de sa bande une sorte de véritable monstre mythique. Et puis eux, qui vivent les choses au quotidien d'une façon totalement, je dirais, plus réaliste, plus immédiate et totalement démythifiée.
Between the way they see themselves and the way they're presented in the public.
Absolutely.
Yes, well, the press, let's use them as the purveyors of the public view.
Prenons la presse comme exemple du point de vue public. La presse aime bien que le personnage soit aussi ample que possible. De manière à exploiter les agissements des personnages pour vendre du papier. Voilà un article intéressant, on va vous donner des détails et ainsi de suite, évidemment. Mais en même temps,
this gets back to the earlier thing about America and how it's basically
à la question sur la violence des États-Unis. La presse a toujours mis en avant des personnages violents comme méritant l'attention du public. Il y a une espèce d'attirance, sans doute malsaine, vers les gens qui enfreignent la loi.
That they're going to lose and yet keep doing what they're doing.
Des gens qui savent qu'ils vont perdre, mais qui continuent.
I have to insert this now, even though this may not be directly related to this particular question. I've always been fascinated.
J'ai toujours été fasciné.
Characters who are intelligent enough to earn their living, make their way almost any legal way you want. Smart enough to be lawyers,
gagner leur vie de manière tout à fait légitime. Des gens qui peuvent être, je sais pas, éditeurs, écrivains,
because of something in their nature,
avocats. Et pourtant,
the other way.
Ils pourraient faire ça, mais ils ne le font pas. John Wesley Harding aurait pu faire comme son père.
Et
il est devenu avocat en prison. Harry Pierpont était un type brillant. Il aurait pu faire plein de trucs différents. Et cependant, il y a des personnes qui décident d'être criminels. Pourquoi? Alors qu'ils pourraient faire autre chose. Je me suis posé cette question bien des fois et je n'ai jamais vraiment répondu. Je crois que c'est lié à l'ombre sombre de notre personnalité. Certaines personnes, particulièrement des hommes, mais les femmes ne sont pas à l'abri de cela, choisissent cette voie délictueuse ou criminelle. En fait, c'est lié aux premiers des péchés capitaux, la fierté. Dans Paradise Lost, il y a une rébellion, paradis perdu. Et donc, il y a le chaos, après le feu, et Satan arrive et prononce une phrase formidable. Et cela explique beaucoup de choses sur le personnage. Il dit, je préférerais régner en enfer que d'être un serviteur au paradis.
Réfléchissez-y,
quelle fierté il faut pour dire ça. Et je crois que bon nombre des personnages que j'ai dépeints ont ce même état d'esprit. Je préférerais régner en enfer. Autrement dit, je préférerais régner sur mon propre esprit. Je préférerais me régner moi-même que laisser quelqu'un d'autre avoir une emprise sur moi. Et quand vous rencontrez des gens comme ça, vous vous rendez compte de ce que c'est qu'un véritable rebelle. C'est ça, les personnages qui m'intéressent, moi. Moi, ça me fascine, parce que c'est un choix délibéré de devenir criminel. Ce n'est pas comme les criminels qui ont grandi dans la pauvreté, qui ont fait l'objet d'abus physiques ou autres, et qui deviennent criminels. Là, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Là, ce sont des personnages brillants qui décident de devenir criminels, alors qu'ils auraient pu tenir des emplois tout à fait ordinaires. C'est un choix. Ils décident d'être le maître de leur esprit, surtout parce qu'ils ne veulent pas soumettre leur volonté à qui que ce soit. C'est un refus de leur part. Ça me fascine.
Et
moi, je viens d'une famille où il y a pas mal d'hommes comme cela.
Votre dernière série de romans, La Loi des Wolfs, est un roman contemporain. Est-ce que vous abordez les mêmes thèmes dans un contexte contemporain, de la même manière que dans un contexte historique ? Et pourquoi avoir voulu, après tant de romans qui auscultaient le passé, parler d'aujourd'hui ?
That's a good question. And actually, I don't see that I've done anything too different, except
mon approche est la même. Je prends les mêmes thèmes, ceux qu'on a évoqués, et là, je parle de la société contemporaine. Au début, je parle d'une famille qui s'appelle Wolfe, W-O-L-F-E. Et cette famille est un exemple parfait de ce dont je vous parle. Il y a beaucoup de choses qui leur feraient mener une vie tout à fait honnête et ordinaire. Mais il y a le petit ange sombre qui fait que leur véritable motivation est dans le domaine criminel. Donc ce sont des gens qui ont commencé comme cela, et même dans la société contemporaine, leur première activité, c'est le trafic d'armes. Bon, on m'a beaucoup critiqué d'avoir présenté cela, notamment dans la société particulièrement violente avec les armes aux États-Unis, mais je dois dire qu'il n'y a que deux véritables libertés qui sont tout à fait nécessaires, et sans ces libertés, on ne peut pas vivre. Tout d'abord, il faudrait avoir la liberté d'expression. On doit avoir la liberté d'expression. Deuxième liberté fondamentale, il faut pouvoir se défendre. Il faut avoir le droit de se défendre. Et cela comporte évidemment le droit d'avoir les moyens de se défendre. Alors, on me critique, on m'insulte, mais ça, c'est la famille Wolfe. C'est pour moi qui parle, c'est la famille Wolfe qui pense cela. Ces gens-là sont des exemples parfaits de ce que je décris quand je parle du personnage de Harry Pyrmont. Ils ont des entreprises tout à fait légitimes, ils ont un cabinet d'avocats, ils ont une société qui est un chantier naval, mais ils ont également des activités délictueuses. Donc, ça existe dans la société contemporaine. Et ce sont les mêmes thèmes en réalité, et mon approche est la même. D'ailleurs, bientôt je vais revenir sur cette famille Wolfe dans de prochains ouvrages, mais je vais me plonger dans l'histoire.
James Carlos Blake, avec Hans O'Mari, nous sommes dans une période où la criminalité américaine passe à l'âge industriel ou à l'âge du business et non plus à l'âge de l'aventure, puisque, bon, effectivement, il y a eu la figure de Capone. C'est la prohibition, on est à la fin de la prohibition. D'ailleurs, à un moment, on évoque la grandiose fête qui a marqué cet heureux événement, c'est-à-dire qu'on pouvait de nouveau consommer de l'alcool en public et sans enfreindre la loi. Ce qui est intéressant, c'est que vous marquez bien, effectivement, ce passage. Vous évoquez l'époque de Jesse James, qui était le bandit rural. Et puis arrive ce personnage que moi j'ignorais totalement, qui s'appelle, je crois, Herbert Lamm, qui est un ancien officier allemand, qui, le premier aux États-Unis, impose une criminalité organisée, planifiée, structuré, on ne fait plus n'importe quoi, on s'organise, on observe les lieux avant de commettre le forfait, on compte les gens, on voit les habitudes des employés, donc c'est le premier à avoir une sorte de rapport méthodique avec la criminalité. Et effectivement, on assiste avec Dillinger à cette espèce de nouveaux styles, de nouvelles pratiques. D'une part, il y a l'usage des voitures, on ne se localise plus sur une province, toute la totalité totalité des États-Unis sont sollicités. Il y a un usage massif du véhicule automobile, de la vitesse. Et puis, il y a surtout une volonté d'examiner le terrain et tout ça. Donc, ça a été important pour vous dans ce roman de mettre en place justement toute cette mutation dans la technique et dans la mentalité des gangsters.
Well, I think it's simply a matter of criminal elements doing what non-criminal elements have been doing.
En réalité, c'est une évolution qui suit le progrès technologique. La technologie évolue et on s'y adapte. C'est particulièrement vrai de toutes les activités, criminelles ou non. Mais ça a été particulièrement vrai pour les criminels qui sont les maîtres de l'utilisation de la technologie à bien des égards. Moi, je dois me documenter sur la technologie pour pouvoir raconter mes histoires, parce que si je n'intègre pas la technologie, je ne toucherai pas du doigt la vérité. Le lecteur va dire, mais pourquoi ils n'ont pas de téléphone portable, pourquoi ils n'ont pas d'ordinateur? Donc, il faut que j'utilise la technologie. Et c'est vrai que les criminels savent utiliser la technologie, et à mesure que les choses évoluent, et bien moi, il faut que je me renseigne sur la technologie. Je viens de terminer The Bones of Wolf, la famille Wolf. Et là, la technologie est omniprésente. J'ai pris beaucoup de plaisir à apprendre plein de trucs sur la technologie et à écrire ce livre. Parce que le cartel d'une part et la famille Wolf d'autre part, je ne vais pas vous divulgâcher l'histoire, mais les deux parties utilisent une technologie très poussée pour gagner. Et au milieu de tout cela, il y a un ouragan, élément naturel qui se fout complètement de la technologie. Je me suis dit, voilà, là c'est chouette, le monde naturel est en collision avec le monde technologique. Et au milieu de ça, il y a le cartel et la famille Wolf. Ça, c'est mon prochain roman. Hein. Donc tout ça, je le combine dans une histoire où tout joue un rôle. La technologie, les éléments naturels du climat et fondamentalement la nature, même l'état d'esprit des criminels qui se battent les uns contre les autres. Voilà, j'espère que ça répond à votre question.
Tout à l'heure, vous avez parlé du fait qu'il y a des hommes, mais aussi des femmes dans cet univers de hors-la-loi. Ce roman, Handsome Harry, met en scène plusieurs personnages féminins qui sont très forts et très intéressants. Vous auriez pu écrire, il y a beaucoup de romans de gangsters qui mettent les femmes de côté, qui en font plutôt des créatures érotiques ou des créatures faibles ou des victimes. Vous, non. Est-ce que vous aviez à cœur, peut-être, dans l'univers du roman de gangsters, de réhabiliter un peu ces femmes-là, qui ont aussi fait tourner le business dont vous parlez, ce business criminel?
I have to tell you, if I may, toot my own horn a little bit, as we say in the States.
Je vais vous raconter quelque chose de personnel.
I like the women I've written about.
Moi, j'aime bien mes personnages de femmes. Je ne peux pas les décrire différemment. Et je crois que les personnages masculins ne seraient pas attirés à d'autres femmes que celles que je dépeins. Une femme qui sait non pas concurrencer, mais qui sait être comme les hommes, sont extrêmement précieuses dans l'histoire. Dans tous mes livres, il y a des femmes fortes, et dans Handsome Harry en particulier. Et il y a une autre chose qui est très chouette avec les femmes, c'est qu'elles se prêtent à d'aspects comiques. Non pas que les femmes soient drôles, mais parce que les femmes ont une perception particulièrement lucide des types auxquels autour desquelles elles gravitent, et donc elles s'amusent de les voir, et du coup ça génère des situations comiques. Toutes les filles, toutes les femmes dans Handsome Harry, c'est un grand plaisir pour moi de les décrire. Même chose sur mon premier roman sur John Wesley Hardin. Il y a des femmes formidables dans ce roman-là aussi, des femmes qui travaillent, qui sont géniales et tout, mais qui pour autant ne sont pas féminines. Elles sont séduisantes, ce sont des femmes qui sont géniales à tous les égards possibles. Donc merci d'avoir posé cette question. Alors, on va parler un petit peu des femmes de la famille Wolf. C'est là que je les aime bien aussi, parce qu'elles, elles grandissent dans cet univers très masculin, criminel, et pourtant, personne dans la famille Wolf ne doit être criminel. Par contre, il faut faire des études supérieures. On ne peut pas participer aux entreprises criminelles de la famille Wolf si on n'a pas fait des études supérieures. C'est comme ça. parce qu'il dit, on ne sait pas, quand tu en auras marre d'être criminel, il faudra que tu te reviennes dans le monde de l'entreprise. Donc, fais des études de droit, de médecine, fais ce que tu veux. Mais une fois que tu es diplômé, à ce moment-là, tu pourras être criminel. Voilà ce que l'on dit dans la famille Wolf. Et c'est vrai, ça s'applique aux femmes aussi dans la famille Wolf.
Donc,
les femmes constituent une joie pour l'écrivain que je suis. Pourquoi ? Parce que j'adore la compagnie des femmes aussi.
Vous êtes né au Mexique, vos livres ont beaucoup parlé du Mexique, les amis de Pancho Villa en particulier. Aujourd'hui, où l'image que donne ce pays est à la fois celle d'un pays totalement gangrené par le narcoterrorisme et en même temps de cette espèce de menace que Trump brandit, de cette absurdité qu'est la construction de ce mur. Comment vous voyez le Mexique aujourd'hui ? Est-ce que vous y allez beaucoup ? Est-ce que vous en êtes encore proche ? Et quelle est votre vision de ce pays dont on disait qu'il était à la fois si loin de Dieu et si proche des États-Unis ?
I haven't been to Mexico in a long time.
Ça fait longtemps que je suis allé au Mexique.
Mexico, remember, I've
alors, il y a Mexique et Mexique. Ça fait 18 ans que je vis pratiquement à la frontière du Mexique en Arizona. Donc, traverser la frontière, ce n'est pas vraiment aller au Mexique. Quand on parle du Mexique, on parle du Mexique profond, beaucoup plus au sud.
Donc,
du côté de mon père, on a la famille était à Mexico. Donc, un univers très cosmopolite. Du côté de ma mère, la famille vivait dans un ranch au nord du Mexique. Donc deux univers et deux cultures complètement différentes s'agissant de mon père et de ma mère. J'ai toujours été fasciné par la culture mexicaine parce qu'elle a évolué de façon incroyable. Il y avait différentes tribus amérindiennes. Les Espagnols sont arrivés, ils ont créé une nouvelle race, moitié amérindien, moitié caucasien. Et ça, du point de vue psychologique, ça a généré beaucoup de problèmes dans la société mexicaine. Les puissants ont toujours réprimé les petites gens plus qu'ailleurs, mais j'aime beaucoup cette société, son histoire, sa mythologie. Le Mexique essaye de résoudre les problèmes auxquels il est en proie, mais il y a la corruption, il y a de la criminalité, et ça semble évident dans la société mexicaine, bien plus que dans d'autres sociétés. C'est une société éminemment violente. Et je crois que la violence endémique de la culture mexicaine est le résultat de la façon dont la population a été constituée. Donc l'arrivée des Européens qui arrivent dans une culture pratiquement amérindienne. Donc il y a une collision de cultures, ça a donné lieu à une société nouvelle qui n'est pas sans problèmes psychologiques. Il a été difficile pour des millions de gens de s'adapter, d'où le Mexique d'aujourd'hui. Pourquoi la criminalité est-elle si importante ? Eh bien, ça a toujours été le cas au Mexique. Le crime fait partie du Mexique. Donc, les États-Unis s'y sont pris différemment, mais la situation n'est pas du tout comparable. Voilà, je peux. Moi, je suis assez désarçonné par le Mexique, bien que j'y ai vécu. Et bien que j'y sois très attaché. Mon père, je vous l'ai dit, vient de la capitale, univers cosmopolite. Il a épousé ma mère, qui, elle, vient d'un milieu rural. Et pour moi, c'est assez illustratif de la culture mexicaine. Il y a une espèce de dichotomie et qui, avec des parties qui se rassemblent.
Deux questions, James Carlos Blake. Vous avez évoqué tout à l'heure ce phénomène singulier qui veut que des gens brillants, intelligents, appelés à des carrières, par exemple d'avocats, étaient devenus des criminels. Est-ce que vous voulez savoir s'il n'y a pas quand même une question de surénergie, de personnages hyper énergiques ? Et je pense notamment à l'énergie sexuelle, qui est totalement... qui semble submerger en permanence les personnages d'énergie psychologique, d'énergie humaine. Est-ce que cette extraordinaire capital énergétique ne rend pas impossible toute inscription dans la société ?
I think that's That's probably true.
Ah, je crois que l'explication est assez bonne, s'agissant de nombre d'hommes intelligents qui font le choix criminel. Ils ont trop d'énergie en eux pour devenir avocat ou médecin ou ingénieur. Leur personnalité est telle qu'il leur faut connaître le risque de la criminalité. C'est vraisemblablement l'un des éléments clés qui explique le choix qu'opèrent les gens intelligents à devenir criminels. C'est le goût du risque. J'ai un ami qui travaille dans le milieu de la tour machine à Pamplune. Il a lu Handsome Harry. Il y a une scène dans le livre où Harry explique. Je sais pas ce que les autres vont vous dire sur nous, mais moi je vais vous dire la vérité. Moi, j'étais comme ça. Et puis dans le chapitre suivant, c'était grandiose. Mon ami me dit, c'est génial lorsque le personnage dit, donne-moi ton, le pistolet, et on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est pour ça, dit mon ami, que je fais ce que je fais avec les taureaux, parce qu'il y a le risque, il y a l'incertitude à chaque fois. Et il y a une jeune femme avec qui travaille, qui dit, peut-être qu'on devrait arrêter de travailler avec les taureaux, devrions-nous être criminels et aller faire des hold-up dans les banques aussi. Bref, ce dont je vous parle, c'est le goût du risque en raison de cet excès d'énergie. Alors, il y a des gens qui adorent tutoyer la mort en faisant, je ne sais pas, de la plongée dans des sous-marines dans des conditions extrêmes ou autres. Ou alors, on peut enfreindre la loi. Mais il faut y aller carrément de telle sorte qu'on peut risquer sa vie. Il y a des gens qui sont attirés par ça. L'adrénaline, tout ça, donc le goût du risque, c'est formidable, l'adrénaline, c'est ça. Ces gens-là essayent vraiment de s'exprimer et puis de faire en sorte qu'ils peuvent canaliser ce surplus d'énergie.
James Carlos Blake, une ultime question. Donc Handsome Harry est entièrement consacré à l'histoire du gang Dillinger. Votre point de vue sur le film de Michael Mann, Public Enemies?
I think is one of the best directors because nobody keeps action moving faster.
Parce que quel rythme dans un film de Michael Mann, il faut attacher sa ceinture. Il y a un rythme effréné. J'adore ces films.
Now, are you talking? Did he do the Dillinger?
Yes.
Okay. I didn't particularly.
Mais s'agissant du film sur Dillinger, j'étais un petit peu déçu. Non, c'est un bon film. Attendez, je me reprends. Mais je m'attendais à mieux parce que le personnage de Dillinger est incroyable. On se dit Dillinger et Michael Mann, ça va être super. Il y aura un rythme génial.
Mais j'ai été déçu, surtout
parce que le personnage de Harry Pierpont n'a pas été aussi bien dépeint qu'il le méritait. Il aurait dû expliquer que Harry Pierpont avait une grosse influence sur Dillinger, mais en dehors de ça, c'était un assez bon film. Voilà.
But I have a complaint about Johnny Depp.
Mais je vais dire quelque chose sur Johnny Depp.
The Friends of Pancho Villa was going to be made into a movie.
Il était question de faire un film. Pancho Villa et Johnny Depp devaient jouer le rôle de Pancho Villa. Et moi j'ai dit, mais ça va être formidable, c'est parfait, quel casting génial. Mais aux États-Unis,
cultural appropriation and all these things.
Et tout à l'heure, on se fait des nœuds dans la tête sur des questions culturelles, et Johnny Depp a été convaincu par pas mal de gens qu'il ne pouvait pas tenir le rôle de Pancho Villa parce qu'il n'était pas mexicain. Et Johnny Depp aurait dû leur dire, allez vous faire foutre, moi je suis artiste, je suis comédien et je peux jouer le rôle que je veux jouer, point final, mexicain ou non. Mais Johnny Depp a refusé. Il a décliné l'offre. C'est dommage. Donc le Johnny Depp, il aurait pu quand même faire mieux que ça.
Et j'avais entendu dire que ce film devait être réalisé par Emir Kusturica, c'est vrai ?
Oui, c'est vrai, oui.
And then when Depp bowed out,
mais Depp s'est retiré et Kusturica est allé voir Benicio del Toro. Moi, je me suis dit, quel bon choix. Mais pour des raisons que j'ignore, del Toro n'a pas pu le faire. Peut-être qu'il était malade. Enfin bref, il n'a pas pu le faire. Donc lui aussi a dû décliner l'offre. Qui sait ? Un jour, peut-être on verra peut-être ce film.
Merci infiniment, James Carlos Blake, pour l'entretien que vous nous avez accordé. Puis on espère vous revoir très vite en France pour continuer cet entretien à propos d'autres livres futurs.
It's been a pleasure
Donc,
being here.
C'est un grand plaisir pour moi, un honneur pour moi. J'adore Paris. Et tous les gens chez Goldmeister, je tiens à les remercier aussi.
Voilà, c'était James Carlos Blake au micro de Mauvais Gens. Je rappelle bien évidemment son dernier titre paru chez Gallmeister, Ansomari, donc la saga du gang Dillinger. Et puis on peut lire également un de ses maîtres livres, Crépuscule sanglant, toujours chez Gallmeister dans la collection Totem. Je remercie aussi Xavier Combes qui assurait la traduction du maître. Un dernier petit mot sur James Carlos Blake.
Que c'est un écrivain dont moi je comprends pas très bien comment il est pas plus connu, qu'il a créé une espèce de modèle de roman historique à la fois extrêmement documenté, passionnant, et où très souvent l'histoire est vue par un personnage secondaire, par un second couteau, ce qui lui donne un relief assez passionnant. C'est un grand, et je sais pas pourquoi il est pas l'égal commercialement de Winslow ou Elroy dont on va parler.
Question de temps, Lise Lépine, un mot?
Ah oui, non, mais là Hubert a tout dit, moi je suis complètement d'accord, c'est vrai qu'il faut sortir de cette semi-obscurité en tout cas.
Voilà, donc les œuvres de James Carlos Blake sont disponibles chez Rivage et chez Gallmeister. Troisième titre évoqué ce soir, donc après Ansomari, La tempête qui vient de James Ellroy chez Rivage. Elise Lépine, Ellroy qui est accueilli comme un prix Nobel de littérature américaine. On dirait que c'était on reçoit Hemingway.
Et comme un semi-dieu, pour ne pas dire comme un dieu du polar qu'il est d'ailleurs. Donc là, il revient après Perfidia. On est dans une nouvelle série de romans qui est consacrée au Los Angeles des années 40, des années, alors on est pendant la guerre, 41-42, les Japonais ont bombardé Pearl Harbor, donc à Los Angeles, c'est la chasse aux Japonais, on les arrête, on les interroge, on les pourchasse, on les persécute, et puis ce qui va, alors on va retrouver des personnages qu'on a déjà croisés dans Perfidia, et puis qu'on va recroiser plus tard dans ces romans futurs qui ont été écrits avant, puisque là, voilà.
Le Dahlia Noir, Elizabeth Short apparaît comme figurante déjà dans La Tempête qui vient.
Dans La Tempête qui vient. Et donc, pour ne pas résumer cette intrigue impossible à résumer totalement. Et extrêmement tentaculaire, en tout cas ce qui va mettre le feu aux poudres et à l'intrigue, c'est la découverte d'un corps. Il y a une pluie diluvienne qui tombe sur la ville et on découvre un corps qui semble être lié à un crime, une attaque de train commise quelques années auparavant. Voilà, tout commence avec ça et puis on va se retrouver dans une histoire, comme je le disais, complètement tentaculaire, à la poursuite d'un violeur en série, dans Los Angeles en proie au chaos, en pleine guerre, et on va retrouver ces figures de, par exemple, Dudley Smith, le flic inquiétant et véreux. Et donc, il va créer une intrigue sombre, chaotique. Je sais pas vous, mais moi, ça m'a paru complètement un tourbillon de ressentis, parce que c'est vraiment une écriture incarnée et sensorielle. Et je trouve plus que jamais dans ce roman.
Alors effectivement, c'est une écriture qui ne nous surprend plus, puisque au bout de plus d'une presque une dizaine de volumes, on connaît l'écriture que avec une rage et une volonté invraisemblable, James Ellroy a conçu, qui est véritablement l'équivalent célinien de la littérature américaine. Moi, ce qui me fascine de plus en plus, c'est à quel point, là, il y a une tonalité presque millénariste et apocalyptique, puisque cette pluie qui dévaste, ces tourbillons qui dévastent en permanence Los Angeles, donnent un côté fin des temps à cette actualité déjà très noire. Donc, on est au lendemain de Pearl Harbor, on est dans la traque, on est dans la conspiration, la cinquième colonne, l'obsession de la trahison. prison. Donc il y a déjà cet aspect-là. Et ce qui est quand même frappant, c'est la noirceur absolue de son univers. On verra la différence d'ailleurs avec Don Winslow, dont on va parler dans quelques minutes. C'est-à-dire que les personnages d'Elroy sont tous gangrenés, ravagés, minés dès le départ, soit par des vices, soit par la cupidité, des vices sexuels, une obsession du pouvoir, la folie. Et à partir du moment où ils arrivent au bout de ce processus, de leur processus individuel, et que brusquement une sorte de conscience les traverse, ils se donnent la mort. C'est ce qui est très étonnant, c'est la fonction du suicide chez Elroy. Il y avait déjà eu ça, je crois, dans Le Grand Nulle Part. Et là, il y a le suicide d'un personnage féminin qui arrive à un moment où elle ne peut plus composer avec la vérité, parce que ce monde ne pense qu'à mentir et ne fait que mentir. Et au moment où on ne peut plus mentir, on ne peut que mourir. C'est ça qui est très étonnant chez Elroy, c'est mentir ou mourir.
Cette période que vous dites, effectivement, il y a aucun espoir possible. Même les institutions sont totalement gangrenées. Ouais. La police est pourrie, on peut plus compter sur personne, les personnages sont pris dans des ambitions démesurées qu'ils n'arrivent jamais à assouvir. Et c'est pour ça que, sans doute, que Elroy prend des événements historiques qui sont de ces petites infamies de l'histoire qu'on met longtemps à sortir. On a eu longtemps la légende française sur la France tous résistants. On a fini quand même par en venir à bout. On parle de plus en plus depuis quelques années de la façon dont les Russes se sont comportés dans Berlin et de la manière dont, en toute impunité, ils ont mis la ville à sac, violent, tout ce qu'ils pouvaient. Et là, on a cet épisode des Japonais et de cette rafle qu'ont fait les Américains sur tous les Japonais d'origine, enfin les Américains d'origine japonaise qui vivaient là, pour les mettre dans des camps. Alors le terme concentration a pris d'autres connotations, mais qui sont effectivement des camps d'enfermement assez rudes. Et c'est un épisode aussi qui était resté très très obscur. Il y avait eu un film
Un homme est passé.
Oui,
mais avec Spencer Tracy qui allait sur les traces de...
Tout à fait, c'est vrai. Mais il y a longtemps, c'était en 51. Il y en a eu un plus récemment d'Alan Parker, dont le titre m'échappe, avec Dennis Quaid, qui racontait aussi ça. Mais on sent que c'est une page quand même très très taboue de l'histoire américaine. Et on peut faire confiance à Elroy pour plonger avec toute sa noirceur, toute son ardeur dans ces pages trop oubliées.
D'autant que les Japonais, évidemment, ne sont pas présentés sur un mode victimaire et manichéen, les horribles Américains et les bons Japonais. Il y a aussi une présentation, des Américano-Nippons, qui est assez ambiguë. Ils sont tous, on ne sait pas très bien pour qui ils roulent. Quand ils sont arrêtés, là, il y a une sorte d'attitude de violence. Enfin, il y a absolument pas de posture victimaire. Ce qui fait que les personnages, là aussi, tout le monde en prend pour son grade. Personne n'est épargné par cette noirceur absolue. Et il renforce encore cette évocation de l'Amérique des années 42 par l'évocation, de la fascisation et de la nazification des élites mexicaines. Alors là, il y a un portrait effroyable, et on en va en reparler aussi avec Winslow, de tous ces milieux de pouvoir mexicains qui se prennent tous un peu déjà pour de grands hitlériens et de purs ariens.
Et c'est d'autant plus intéressant, ces deux points, que Elroy s'oppose à la vogue victimaire qui règne aujourd'hui, alors que lui, de par son passé, son histoire douloureuse, l'assassinat de sa mère qui a été raconté mille et mille fois, aurait pu se poser dans cette condition totalement victimaire. Et là, non, il refuse ça. Et ça aussi, c'est assez passionnant. Et là, le portrait qu'il fait de ces nazis déchaînés et ridicules est aussi intéressant quand on sait que lui, à un moment, a flirté avec l'extrême droite. Donc il y a aussi, à travers tout ça, une réflexion sur son destin à lui, qui est en filigrane, mais qui est assez intéressante.
D'autant que le nazisme apparaît, vu depuis Hollywood, comme une sorte de nouvelle drogue, une sorte d'épice un peu sulfureux, un peu mortel, qu'on aime fréquenter. On aime jouer aux nazis, même dans la police de Los Angeles.
Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il à la fois, il aborde une nouvelle époque et une nouvelle ère, et en même temps, il a toujours ces thèmes éternels qui traversent son œuvre, la question de ce qui est contre nature aussi. D'ailleurs, on a des juifs eugénistes aussi dans ce texte, ou des chinois pro-japonais. Il y a des alliances qui se font qui sont un peu monstrueuses, même complètement monstrueuses. Et puis, la question de l'héritage. Parce que là, il écrit avant ce quatuor, il écrit un autre, ce quartet, il écrit un autre quartet, pardon. Et en même temps, il exploite la question de l'héritage, des parts d'ombre qui se transmettent comme ça, presque par contagion, de personnage en personnage, de génération en génération. Il va plonger aussi dans le passé. Il y a deux intrigues qui remontent dans les années années 30, et puis on sait que tout ça va se prolonger dans les années 40 et encore plus tard dans Underworld USA. Il y a vraiment quelque chose qui se crée qui est monstrueux dans le sens de la taille et dans le sens de des entrailles et de ce qui grouille à l'intérieur.
Qui est presque une espèce de comédie humaine du crime à l'époque. Il construit d'œuvre en œuvre des livres qui s'interpellent les uns les autres. On retrouve des héros des uns dans les autres. Et il construit vraiment quelque chose dont on se demande jusqu'où ça ira. Déjà, s'il atteindra la fin de ce quatuor-là. Et après, quelle sera la nouvelle étape pour construire cette espèce de cathédrale de la pourriture américaine.
Avec l'idée qu'il y a quand même une sorte de péché originel américain sur la nature duquel on s'interroge et que le mal se réincarne au fil des séries. Alors là, c'est déjà Dudley Smith, cette espèce l'Irlandais, le flic irlandais de Los Angeles qui manipule le Puppet Master, qui joue toutes les horreurs possibles. Et après, ce sera Hoover. Donc là, il y a une sorte d'interrogation presque théologique sur ce qui est le péché originel de l'Amérique et la manière dont il se diffuse aux différentes époques de la société, puisqu'entre 41, on y va jusqu'en 72, avec la fin de la trilogie Underworld USA.
Et c'est ça qui est passionnant chez Elroy, c'est que je trouve qu'il a un côté divin qui est en train de prendre de plus en plus de place, même dans les médias, quand il se présente. Il explique que déjà ses apparitions sont un peu celles d'un dieu, et puis il explique que c'est Dieu qui tient sa plume et qui lui donne comme ça la mission de recréer le passé pour ses lecteurs. Et c'est vrai qu'il a un côté prométhéen, qui arrive avec le feu pour nous montrer, éclairer le visage de l'Amérique, alors qu'en plus, ça ne l'intéresse pas du tout de parler de l'Amérique contemporaine.
La tempête qui vient de James Ellroy, c'est chez Rivage Noir. Alors, c'est très intéressant puisque c'est un livre qui traite le même problème, mais presque 60 ou 70 ans plus tard, la frontière de Don Winslow. Donc, Winslow, on l'avait rencontré pour corruption. Avec la frontière, il livre le troisième volet de sa narco-trilogie, commencé avec La Griffe du Chien, continué avec Cartel. Et de là, on est à un même problème, c'est-à-dire la tectonique des peuples et la tectonique des États entre le Mexique et les États-Unis d'Amérique, la question du trafic de drogue qui passe de l'un à l'autre, là notamment l'héroïne, et puis la pourriture des élites, que ce soit les élites mexicaines qui tentent même plus de résister à la puissance des narcos, et puis les Américains qui tentent de tirer leur épingle du jeu, et au centre de tout ça, le chevalier blanc, Art Keller, Hubert Prolongeau, parce que quand même, il y a un chevalier blanc, à la différence d'Elroy.
Un chevalier gris, quand même.
Relativement blanc.
Il a malgré tout abattu, à la fin du précédent, son principal adversaire. Et il a les mains dans le cambouis, si l'on peut dire. Cambouis qui était extrêmement sanglant depuis le début. Mais c'est vrai qu'il y a chez Winslow une espèce de foi dans la possibilité, sinon de changer les choses, du moins d'influer dessus. Et c'est très amusant de voir que dans La Frontière, comme dans Les Testaments dans Margaret Atwood, c'est cette espèce d'idée un peu naïve que l'information et la presse peuvent encore sauver le monde qui est en jeu. Le héros de La Frontière, à la fin, coincé de partout, balance tout à la presse et voilà. Alors il se tombe dans un piège, mais le divulgachi. mais voilà, il arrive quand même. Enfin, il y a quelque chose qui en sort. Et ça, c'est une espèce de croyance encore assez américaine, dans une espèce de victoire finale possible des forces du bien.
Ce qui n'est pas le cas chez Elroy.
Par ses piliers du tout, que sont la démocratie, même si elle est défaillante, et la presse.
Non, mais oui, Elroy, il est vraiment dans le hard-boiled noir fermé qui fonctionne comme un cercle dont on ne sort pas, tandis que Don Winslow, il y a un aspect que j'ai trouvé là dans ce texte très pédagogique, très didactique en fait, où il essaye de nous montrer, d'ailleurs il parvient tout à fait bien à nous montrer ce qu'est l'Amérique et comment fonctionne la question de la corruption, du blanchiment d'argent entre les frontières mexicaines et américaines, avec ce Art Keller qui va rester, qui va combattre cette fois-ci la drogue depuis les États-Unis, et il vraiment nous soulève pour nous toutes les pierres sous lesquelles se cachent les différentes mécaniques qui permettent que ce système corrompu pourri tienne encore aujourd'hui la route, et d'autant plus que avec Trump, et il le dit très clairement, les choses ne font que s'empirer et s'enliser dans le pire.
Trump n'est pas mis en cause directement dans le roman, c'est un autre nom. Et c'est également un grand roman sur la transmission, l'héritage noir, puisque au départ on avait la première génération, je dirais les pères fondateurs, les pères pèlerins, ensuite on a eu les héritiers qui ont développé la chose, et puis là on arrive à la troisième génération, ceux qui sont contraints d'assumer ce formidable héritage
personnage formidable au sens
qui fait peur,
non pas qualitatif mais quantitatif, cette énorme charge qui est celle donc de l'empire des narcos mexicains. Don Winslow, La Frontière, James Ellroy, La Tempête qui vient, le même histoire à 60 ans d'écart, donc chez Rivage et chez Harper et Collins.
Et on peut signaler aussi pour tous ceux qui ont aimé ces livres que donc en poche, il y a Rivage qui ressort sous des nouvelles couvertures les 4 tomes du premier Quatuor de Los Angeles et que Don Winslow a une double actualité puisqu'il y a un coffret chez Point avec Cartel et La Griffe du Chien, les deux qui précèdent La Frontière, et que Corruption, son précédent roman, celui pour lequel on avait reçu, sort en poche chez Harper Collins.
Merci Hubert, on termine cette émission bien évidemment avec Christophe Beer.
La politique des auteurs n'est pas tout. Sous une filmographie a priori hasardeuse, au détour d'une séquence, d'un geste ou d'une intonation, coule une souterraine poétique des acteurs dont la cinématique des muses, publiée chez Pierre-Guillaume de Roux, est une démonstration amoureuse. Avec le portrait vivace de 21 comédiennes du cinéma européen des années 1960-80, Ludovic Maubreuil dévoile leur envoûtement discret, une grâce qui intrigue tout autant qu'elle ravit, bien loin de la splendeur sans mystère. Leur secrète empreinte se niche au cœur de rôles plus souvent secondaires que principaux, même de silhouettes figuratives. Leur présence, explique-t-il, dépasse la typologie des personnages, le déroulement des intrigues, le genre du film et même les qualités formelles de ce dernier. Le cinéphile tourmenté ne se soucie plus de hiérarchie, embrasse alors avec autant de désir le chef-d'œuvre que le nanar, traque la moindre dramatique télé en quête du récit propre que construisent ses créatrices. C'est l'innocence affairée d'Anice Alvina, son insolente candeur qui éclate aussi bien dans les facéties de Michel Audiard que dans les jeux sadomaso dans la robe grillée qui l'effarouche si peu, ou l'ironie fragile de Francine Berger, le plus beau succube du cinéma français. Maubreuil se remémore la fausse religieuse criminelle du Judex de Franju et la soubrette forcenée au mascara antique des Abysses, mais il conclut par 3 scènes auprès d'Alain Delon dans Monsieur Klein, Le Toubib et Un crime. D'un plan, elle y traduit une humiliation narquoise, une empathie impuissante et une incompréhension soucieuse. Francine Berger, écrit l'auteur, n'aura peut-être jamais été aussi bouleversante et dans ces 3 plans, tout aura été dit sans même une larme. Auprès de Tina Aumont, Elsa Martinelli ou Edith Skob, des étoiles filantes éblouissent, comme Lisbeth Hummel, dont La Bête de Borowczek révèle la volupté inquiète. Sa brève carrière n'est qu'une dérive érotique dans laquelle Maubreuil décèle encore des plans fascinants. Celui de son visage affolé que le montage de La Bella et la Bestia de Luigi Russo, série Z comme zoophilie, fait alterner avec les sexes turgescents des chiens et d'un cheval et ses caresses frénétiques sur leur pelage. Par l'ordre alphabétique, dernière de la sélection, Elisabeth Wiener, de la prisonnière à l'araignée d'eau, semble une créature salvatrice, chahutant l'ordre et offrant au livre sa conclusion mélancolique. Les actrices de la trempe d'Elisabeth Wiener appartiennent à un monde ancien qui sera bientôt, et sans autre forme de procès, jugé inconcevable.
Merci Christophe Beer. 2 autres choses à vous signaler. Si vous êtes Toulousain entre le 19 novembre et le 19 décembre, ne ratez pas, je répète, ne ratez pas, formidable festival fantastique australien, le Cri de la Nature. On a dit et répété, et on continuera de le faire, que le cinéma de genre australien est un des meilleurs du monde. Et bien là, de Picnic à Hanging Rock jusqu'à Razorback, allez vous réjouir en regardant ce festival. C'est à la Cinémathèque de Toulouse. Et puis Arthur's Film, que l'on aime et que l'on soutient dans sa collection Les Classiques, livre en DVD, une adaptation peu connue, voire totalement méconnue, des mains d'Orlac de Maurice Renard. On connaît les précédentes, qui étaient celles de Robert Follet et d'Edmond Tégréville. Et bien voilà, Les Mains d'un étranger de Newt Arnold, c'est en DVD. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Valérie Lavalard, Claire Poissignon, Claire Martin-Dugard, Élise Lépine, Hubert Prolongeau, Christophe Beer et François Angelier vous remercient d'avoir suivi l'émission. Rendez-vous samedi prochain où nous vous parlerons de Stephen King au cinéma. Tout un continent à décrire.